Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vraiment... Alors, deuxième séance, ce soir, c'est donc, après avoir fait une rapide vue de l'existence de Dieu, de la création, un peu de l'histoire sainte, il nous faut donc aborder celui qui va restaurer le mariage et qui va donner une signification toute particulière au mariage. C'est justement la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qui s'unit à notre nature humaine en naissant d'une vierge, c'est-à-dire qu'elle aura cet enfant sans homme. Saint Joseph sera son époux véritable. D'ailleurs, il y a des considérations particulières à faire dans ce mariage où il n'y a pas consommation du mariage, mais il y a amour matrimonial, amour conjugal, et un enfant dont le père est père adoptif. Et le père véritable est Dieu en sa substance. C'est particulier, mais en même temps, on appelle cette famille avec un seul enfant, le mari, Joseph et l'enfant Jésus, la Sainte Famille. Donc il y a quand même quelque chose, alors même que vous verrez avec le temps, justement, on vous dira de ne pas avoir peur d'avoir des enfants. Moi, vous allez me dire que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, puisque mes parents, eux, n'ont eu que deux enfants, mais ma mère ne s'est jamais empêchée d'avoir des enfants. Et donc, et je connais des couples stériles, donc je sais très bien que, si vous voulez, même sans tricher, entre guillemets, eh bien, on peut ne pas avoir beaucoup d'enfants. Ce n'est pas une question de vouloir avoir des enfants, c'est vouloir être ouvert à l'arrivée de ces êtres si différents les uns des autres, des mondes entiers qui arrivent, et qui bouleversent vos vies et qui construisent vos vies. Ça, nous le verrons plus tard. Nous allons ce soir donc terminer cette histoire sainte en comprenant bien que l'importance du peuple juif et de tout ce qu'on vous dit, n'est-ce pas, dans les enfants d'Abraham, dans ce genre d'émission, dans ce qu'on appelle le monothéisme, et donc pour placer le mariage chrétien au milieu du mariage juif et du mariage musulman plus particulièrement. Alors pour cela, il nous faut donc reprendre que l'être humain a conscience de l'existence d'un Tout-Puissant, quand bien même il se laisse tenter par la réincarnation, il se laisse tenter par une vie après la mort qui ne serait pas avec une rencontre personnelle avec Dieu, eh bien, il y a quand même une présomption de surnaturel après la mort chez l'être humain. Et dans la révélation biblique, cette existence de Dieu est clairement exposée, ce qui nous fait parler du monothéisme. Mais sachez que dans la Chine ancienne, il y a un Dieu créateur. Et ensuite, vous avez une multitude de petits dieux qui ont été inventés, mais si vous voulez, l'empereur est le fils du ciel. Et au Japon, la même chose. Il y a une sorte d'éternité au-dessus de toutes les petites puissances qui font tous les petits dieux. Et je vous avais dit la dernière fois que dans le bouddhisme, et surtout le bouddhisme tibétain, vous avez une quantité d'esprits. Donc, c'est pas du tout athée. On pense que le bouddhisme est plus une philosophie qu'une religion. Si vous faites un stage dans une lamasserie du Tibet, vous verrez que c'est une religion. Ils n'arrêtent pas de prier, ils n'arrêtent pas de faire des invocations, et ce sont des invocations à des esprits. Et quand ils les représentent, en général, ça correspond à notre imagerie démoniaque. Ce sont des êtres absolument terribles, parce que ça leur permet d'exprimer la face sombre des esprits, ou les équilibres des forces, enfin voilà, c'est un... Et... Par contre, d'un point de vue naturel, malgré la polygamie, alors la polygamie c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes, Vous avez dans le monde à peine 4, 3, 5 tribus, parfois même sur des îles, justement, qui sont polyandres. C'est une femme à plusieurs maris. Et c'est extrêmement rare. Pourquoi c'est extrêmement rare ? Parce que l'enfant est incertain. On ne sait pas qui est le père, sauf belle ressemblance. Voyez. Donc, ça, si vous voulez, ça dérange profondément l'équilibre familial. On ne sait pas qui est le père. Dans la polygamie, on sait, comment dire, on sait pertinemment qui est le père, puisqu'il n'y a qu'un seul homme, et on sait qui est la mère, parce que la mère, elle est toujours certaine. Hein, sauf enfantement caché, secret, tout ça, mais enfin, voilà. Quand une femme enfante, les gens sont là et, comment dire, on l'aide, enfin, l'enfant est, enfin, la mère est certaine. Et donc, la polygamie a été, est une tolérance par rapport à la perfection de la nature humaine qui évite justement cette concurrence et cette jalousie au sein de la famille entre les femmes de premier rang, deuxième rang, troisième rang. Et donc, la polygamie assure toutefois le cœur du mariage qui est, d'un point de vue naturel, le fait d'être ouvert sur la vie. Pourquoi deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas se dire mariés ? C'est parce que le mariage est intrinsèquement lié à la sexualité. C'est la possibilité d'avoir des enfants. Et donc, dans la Bible, vous avez 3-4 couples de 80-90 ans qui ont un enfant. C'est pour nous subjuguer, c'est pour nous faire comprendre que Dieu est maître de la vie, de la mort, mais de la vie aussi. Et pour nous faire comprendre aussi que même après des années de stérilité, des couples ont eu des enfants. Là, c'est miraculeux. Hein. Élisabeth et Zacharie ont Jean le Baptiste alors qu'ils n'attendaient plus du tout d'enfants. Elle avait 80 ans, donc c'était inimaginable. Mais d'ailleurs, ça vous dit la simplicité avec laquelle ce vieil homme et cette vieille femme consommait encore l'acte conjugal, très simplement. Oui. Et parce qu'on nous parle actuellement de la sexualité du troisième âge, n'est-ce pas, de manière plus ou moins grivoise, ou ceci ou cela, dans les siècles passés, quand on n'est pas puritain, on use du mariage d'une manière très simple, tant que c'est possible. Oui. Et donc, le peuple juif, lui, a une seule idée, c'est préserver la foi au milieu de peuples païens qui sont de plus en plus durs, qui font des sacrifices humains et qui ont des rituels assez redoutables. Les Baalim, c'est ceux qui jettent des bébés dans des statues d'airain incandescentes. Et vous avez aussi, comme je vous l'avais dit, des bébés qui sont mis dans les fondations des maisons pour porter chance. Et donc, ces horreurs, Dieu les réprouve et dit à son peuple, vous allez prendre la Terre Sainte, parce qu'ils ont abreuvé le sol du sang de leurs fils et de leurs filles. En quelque sorte, voyez-vous, les peuples de Terre Sainte, les Cananéens, sont chassés pour un peuple qui, lui, est plus pieux et plus vrai. Les trompettes de Jéricho, c'est le peuple juif qui tourne autour de la ville païenne de Jéricho, et 7 jours de suite, et le 7e jour, les murailles de Jéricho s'effondrent, à la sonnerie des trompettes des prêtres qui, accompagnaient l'Arche d'Alliance, qui a tourné 7 fois, les prêtres portaient l'Arche d'Alliance, tout le peuple tournait autour de la ville, donc les païens, ils disaient, mais qui c'est que c'est dingue? Mais le 7e jour, au 7e tour autour de la ville, eh bien les murailles se sont effondrées d'une ville considérable. Et donc les païens savaient que ce peuple portait avec lui de très nombreux miracles. C'est la raison pour laquelle, voyez-vous, dans ce quartier, vous avez beaucoup de juifs, vous les avez remarqués, je pense, des rabbins, des raves. Le rabbin, c'est le responsable, le rave, c'est un théologien, et qui ont des fils blancs pour se rappeler de la présence de Dieu. Hein. Avant, ils avaient une tunique avec les fils de leur tunique qui signifiaient qui leur rappelaient la présence de Dieu. Actuellement, ils ont des pantalons, donc ils mettent des fils comme s'ils avaient de longues robes, n'est-ce pas ? Enfin, de longues aubes, de longues djellabas, hein, puisqu'ils viennent de l'Orient. Et quand ils ont passé des siècles en Pologne ou en Russie, vous voyez, ils sont plus en djellabas, hein, c'est fini. Leur foi est très profonde, voire même fondamentaliste, dure. Mais vous remarquerez une chose, les juifs ne sont plus polygames. Toutefois, ils peuvent encore répudier. Et pour pouvoir se remarier, une femme juive doit demander à son mari qu'il la répudie. Mais elle ne peut pas se séparer de son mari. On est encore en Orient, hein, on est encore dans le patriarcat. Donc un juif observant et une juive observante qui se séparent et qui divorcent, eh bien, il n'y a que le mari qui peut la répudier. Et s'il ne le fait pas, le guet, n'est-ce pas, le rabbin ne permettra pas à la femme de se remarier. Mais normalement, il peut permettre aussi la polygamie. Vous voyez, vous avez quelques groupes juifs orthodoxes qui tentent un peu 2-3 femmes, mais ils sont vraiment pas connus. Voyez. Et donc, avec les siècles, on attend le Sauveur. D'autant plus que le peuple juif a été envahi par les Babyloniens, par les Assyriens, par les Perses, les Mèdes, les Iraniens, qui ont été chassés par les Grecs et Alexandre le Grand. Ensuite, ce seront les Romains, mais les Grecs sont allés jusqu'en Égypte. Les Romains vont coloniser l'Égypte. Donc vous avez des dynasties égyptiennes, romaines, avec des influences romaines. Et c'est un couloir d'invasion, en fait. Hein, entre la Syrie et l'Égypte, les armées n'arrêtent pas de passer. Et eux, ils sont au milieu, donc... Et donc, ils sont épuisés. Et ils attendent cette promesse faite à Ève, à Lucifer, en disant « La descendance de cette femme t'écrasera la tête. » Donc, ils attendent. Vous avez le prophète Daniel... qui vivait environ 500, un peu plus de 500 ans avant Jésus-Christ, qui, lui, est parti en exil à Babylone, et qui va être libéré par Darius, par les Perses, qui vont faire reconstruire le temple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est là et il dit, mais quand il va venir le Sauveur? Quand il va venir le Sauveur? Et figurez-vous que c'est dans le livre de Daniel, hein, dans la Bible, c'est l'archange Gabriel, 500 ans avant la Vierge Marie, hein, qui apparaît à Daniel et qui lui dit « Ta prière est montée jusqu'aux cieux. » Parce que, hein, on n'en peut plus. Donc, on t'a donné une réponse, histoire que tu taises un peu, que t'aies, voilà, qu'on ne peut plus dormir, on ne peut plus adorer, on ne peut plus rien faire. Donc, ne t'inquiète pas, celui qui doit venir, le Messie, roi, viendra dans 70 semaines d'années. Ça va? T'as une durée, t'as tout ça, t'as une belle prophétie. Tu l'as dit à tes co-religionnaires et tu nous laisses tranquille. Et donc, Daniel est tout content, tout ça, et puis il fait ses calculs, c'est 490 ans. C'est une vaste blague, quand même. Il dit, mais on va attendre 5 siècles encore. Eh ben oui. Ben, enfin, c'est quand même sympathique de la part de Dieu de lui avoir dit. Vous voyez, au moins, il n'a pas à l'attendre pour la génération d'après. Vous voyez, donc, il peut mourir tranquille, il ne la verra pas, hein, cette venue du Messie. Eh bien, 500 ans plus tard, c'est la venue de Jésus. C'est assez impressionnant, hein, la prophétie de Daniel. Et donc, au moment, il y a 2000 ans, 2018 ans, tout Israël bruissait de la fin des prophéties. Tout le monde attendait quelque chose. Vous aviez un prophète qui avait dit environ 200 ans avant Jésus-Christ que le Messie verrait ce temple. Quel est ce temple où on avait déposé l'Arche d'Alliance dont je vous avais parlé? C'est le deuxième temple. Le premier temple a été construit par Salomon, le fils du premier roi juif, David. 500 ans plus tard, il est détruit par les Babyloniens, jusqu'au sol. Il est reconstruit par l'ordre de Cyrus, roi des Perses et des Mèdes. Et le deuxième temple est construit par des gens qui reviennent d'exil, dans un pays ravagé, donc il n'est pas très très joli. Il est bien, mais il est correct, mais voilà. Et un jour, il y a un prophète qui arrive, 200 ans plus tard, juste environ, et qui dit, mais ne méprisez pas ce temple, parce que le Messie le verra. Il entrera dans ce temple. Et donc, et sachez qu'il n'y avait plus l'Arche d'Alliance. Depuis le prophète Jérémie, qui avait caché l'Arche d'Alliance pour pas qu'elle soit profanée, quand les armées étaient arrivées. Ils étaient partis dans la montagne, et ils avaient fait des tours. Ceux qui étaient avec Jérémie ne savaient plus où ils étaient. Ils sont rentrés dans une caverne, ils ont mis l'Arche d'Alliance, et ils ont tout éboulé, et ils sont partis. Ils ont fait des tours, et c'était fini. Donc Steven Spielberg ne trouvera jamais l'Arche d'Alliance. Et donc, elle n'est pas au Vatican, elle est dans une caverne en Terre Sainte. Et donc, et son temps est révolu. Il y a donc 2018 ans, un peu plus, 2050 ans, il y a une prophétie qui s'accomplit de manière impressionnante. Qu'est-ce qu'il sait? Vous avez Abraham, qui a Isaac, qui a Jacob. Et Jacob mourant, celui qui s'appelle Israël, hein, il dit à son fils Judas, « Quand le sceptre quittera ta tribu, viendra le désiré des nations. » D'abord, il n'y avait pas encore de roi. Le roi n'était pas de la tribu de Judas. Le premier roi sera Saül, qui était de la tribu de Benjamin. Et ça ne s'accomplira que 700 ans plus tard. 650 ans plus tard. Et tout ça est colligé, si vous voulez, dans la mémoire d'Israël. Et c'est Moïse qui mettra par écrit tout ce qu'il y a de la transmission orale jusqu'à lui. Environ 1400 ans, 1300 ans avant Jésus-Christ. Il collige toute la tradition orale juive de 1800-1700 ans avant Jésus-Christ. Et donc, cet effort extraordinaire de Moïse et des Lévites donne 1600 ans plus tard, hein, donc l'attente, on dit, mais pourquoi? Parce que depuis l'an 1000 avant Jésus-Christ, il y a une royauté. Donc déjà, la prophétie de Jacob s'accomplit. Il y a un sceptre. Alors qu'avant, c'était uniquement 12 tribus dirigées par leurs patriarches. Et encore, les patriarches étaient l'aîné d'une tribu, Ruben par exemple, mais ils étaient en ville, et donc ils ne dirigeaient plus rien du tout. C'était vraiment une société très patriarcale. Et il n'y avait pas de roi. Il y avait des assemblées de pères de famille, comme actuellement en Suisse, dans les cantons allemands du fin fond des Alpes, où il y a encore 50 ans, ils se réunissaient pour voter en levant une épée. Et vous connaissez? Vous avez des...
Non, parce qu'on était à Penzel en Suisse cet voilà. Été, et ils votent encore...
Ils votent encore par des assemblées devant la ville, enfin la mairie. Et donc, avant de leur faire part de leur indépendance, les Suisses, il faudra les tuer jusqu'au dernier, hein, et aller les chercher au fin fond des montagnes, qu'ils ont toutes creusées quasiment. Et donc, ah mais moi j'avais discuté avec des Suisses, alors c'est top secret, avec un prêtre suisse, donc qui lui avait fait son service militaire, avait encore son arme, un fusil, chez ses parents, et donc il y a telle montagne, ils sont creuses. Il y a des réserves de nourriture, d'armes, des trucs incroyables. Quelqu'un qui veut prendre la Suisse, même Hitler y a renoncé. Mais quand les armées nazies sont arrivées à la frontière suisse, il y a une main immense qui est apparue. Et les chars et les camions ne pouvaient plus démarrer. Et c'est la main de Saint Nicolas de Flux, qui est le patron de la Suisse. Une main d'un vieillard. Et les Allemands ont retransmis ça à Berlin, et comme il était extrêmement superstitieux, Hitler, il s'est écrasé. Et donc, voilà donc ce peuple, et la tribu de Juda, qui a été, le roi a été en exil, humilié, mais il y avait quand même une succession, et tout d'un coup, les Romains disent, on en a marre de la tribu de Juda, on va nommer un Iduméen. C'est quoi un Iduméen? C'est quand même un descendant de... comment dire, d'Abraham, mais c'est une autre branche. Et donc, pour eux, et en tout cas, il n'est pas de la tribu, des tribus d'Israël. Donc, ce n'est plus la tribu de Juda qui a le sceptre. Hérode le Grand, grand bâtisseur, très intelligent, très rusé, qui est placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. Et donc, tout le monde attend. Et vous avez tous les scribes, c'est-à-dire ceux qui connaissent la langue, l'écrivent, tous les théologiens, les pharisiens, les prêtres du temple de Jérusalem, disent, ça, normalement, il arrive maintenant. Donc ils sont là, il y a l'ébullition. Voilà. Vous avez des personnes d'ailleurs qui ne sont pas juives, qui sont des mages, c'est-à-dire des savants qui étudient l'histoire, la géographie, l'astronomie, je ne dis pas l'astrologie, hein, l'astronomie, qui étudient la botanique, les animaux, qui sont versés dans de nombreuses sciences et qui colligent des écrits et qui ont eu les écrits sacrés juifs. Trois de ces mages, il faut avoir le temps d'étudier, il faut être riche. Et donc ce sont des rois de ville, mais des rois, si vous voulez, savants, les trois rois mages. Et donc ils vont étudier les écritures des peuples et ils vont se dire, ce peuple-là a la foi adamique, ce peuple-là a la vraie religion. Et d'après leurs écritures, leur sauveur va venir. Et là, apparaît une étoile dans le ciel, et ils considèrent que cette étoile est l'étoile qui avait été prophétisée dans le livre de Daniel, enfin, il y avait une référence à cette étoile, à l'apparition de ce sauveur. Et ils la suivent, et ils arrivent près de Jérusalem. Et là, ils vont en ambassade auprès du roi, Hérode, et il dit « Nous sommes venus voir le roi des Juifs. » Alors lui, au lieu de leur dire « C'est moi », il connaît très bien la culture juive, même s'il est iduméen, il fait venir les rabbins, les prêtres et les pharisiens, il leur dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ils disent « Oui, ça correspond, mais où est-ce qu'il va naître ?» À Bethléem. Normalement, il y a le prophète Zacharie qui a dit « Ô toi Bethléem, ville de Juda, tu ne seras pas la plus petite, car le soleil se lèvera sur toi. » Enfin, il y avait pour cette prophétie, c'est Bethléem. Donc Hérode le Grand fait revenir les mages et dit « Allez à Bethléem. Et si vous le trouvez, dites-le-moi, moi je viendrai honorer ce grand roi que mon peuple attend depuis tant de siècles. » Voyez ? Donc eux, ils sortent du palais et l'étoile réapparaît et va jusqu'à Bethléem. L'information était juste. Et c'est la nuit de Bethléem. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette nuit de Bethléem ? Vous avez des apparitions angéliques. Il faut savoir que... neuf mois avant, une vierge de Sion qui avait 14-16 ans, l'âge nubile de loi, dans la loi naturelle, hein, dans les siècles passés, c'est 14 ans pour 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Vous avez, allez en Orient, vous avez des femmes d'1m60 totalement formées à 12 ans, qui sont de magnifiques filles, femmes. Et vous avez les garçons qui, eux, sont pubères plus tard, 14 ans. Alors, il est bien évident qu'on ne mariait pas systématiquement. Par contre, les filles étaient mariées systématiquement, parce qu'on voulait qu'elles soient vierges au mariage. Donc, on les mariait à 12 ans, 14 ans. Mais l'homme était plus vieux, 18 ans, 22 ans, 25 ans. Et donc, il se trouvait que Anne et Joachim avaient eu un enfant dans leur âge avancé. Ça fait partie des enfants, comment dire, de l'histoire sainte, miraculeux. C'est-à-dire, c'était un vieux couple qui s'était résigné à ne pas avoir d'enfants, mais qui était extrêmement pieux. Et qui étaient des personnes extrêmement honnêtes et connues pour l'être. Et voilà que Anne tombe enceinte. Alors, ils considèrent que c'est un miracle, que c'est un cadeau de Dieu. Et en effet, leur fille, c'est Marie, qui est immaculée dans sa conception, c'est-à-dire qu'elle est indemne de la peine de l'humanité, de... comment dire, du désordre dans l'intelligence et dans la volonté, et de vieillissement et de la mort. Et la Vierge Marie, les théologiens disent paisiblement, il n'est pas certain qu'elle soit morte parce qu'elle n'avait pas de raison de mourir. Comme elle ne vieillissait pas, elle avait un corps dans l'Immaculée Conception. Elle n'était indemne, si vous voulez, de la condamnation à mort solidaire de l'humanité. Nous, si vous voulez, quand un homme et une femme deviennent des criminels et sont condamnés à mort, par exemple, hein, et meurent, eh bien, ils n'ont pas d'enfants. L'humanité ne devait pas continuer à vivre, sauf à avoir un sursis dans les siècles. Et donc, ce sursis dans les siècles, c'est que l'un d'entre nous rétablisse l'amour. C'est ça la Bible, hein. c'est pas autre chose. Hein. C'est la réponse à la mort. C'est l'espérance de la résurrection et de la récompense de l'amour. C'est ça la religion. Il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a pas d'autre religion que l'amour, parce que Dieu est amour. Par contre, quand je vous dis ce que je vous dis, vous comprenez que Dieu n'est pas un rigolo et qu'il met à l'épreuve l'humanité et que la vie est parfois extrêmement difficile. Et donc, ils ont cette fille et cette fille va être éduquée au temple de Jérusalem, auprès des saintes femmes qui s'occupent du temple. Et à un moment... comme elle est assez grande et que elle va être totalement au service du temple, et un saint prêtre du temple va dire, elle va exprimer une chose étonnante pour une juive. Elle dit, je ne veux pas me marier. Je veux me consacrer totalement à la prière. Mais ce n'était pas pensable pour une juive. Normalement, les juifs devaient se marier et avoir des enfants pour perpétuer le peuple contre l'adversité du monde païen. Et d'autant plus qu'elle était, son ascendance, de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Et quand vous êtes de la tribu de Juda et de la famille de David, donc elle était d'ascendance royale, mais même si ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de roi, et qu'il avait perdu tout pouvoir, c'est un peu comme un des prétendants au trône qui serait au 45e degré des Bourbons actuellement. Il est peut-être. Si tout le monde meurt avant lui, il sera roi, mais bon, c'est. Vous voyez, pour ceux qui sont monarchistes, c'est un peu lointain. Et elle était de la famille de Juda. Et de la famille. De la tribu de Juda et de la famille de David. Et par son père et par sa mère, de la famille d'Aaron, de la tribu de Lévi. Et le prêtre se dit, il faut que je la marie avec un homme qui respectera son vœu de virginité. Donc il va chercher un saint homme qui fera un mariage, si vous voulez, ce qu'on appelle un mariage joséphin, mais ça c'est postérieur justement, et il lui dit, elle veut se consacrer à la prière, tu devras, dans ton mariage, beaucoup prier avec elle, mais voilà, elle veut, si vous voulez, c'est, de nos jours, ça fait 2000 ans qu'on a des vierges consacrées, donc on le conçoit mieux, mais à l'époque, c'était quelque chose. Il trouve Joseph, qui est un saint homme, et qui accepte. Donc on les fiance, et à l'époque, les fiançailles, c'est le pré-mariage, hein, ça rigole pas. De nos jours, les fiançailles peuvent se rompre. Mais à l'époque, c'est la première étape du mariage. Donc on est quasiment considéré comme marié. Et donc elle n'est pas encore chez lui. Il y a eu toute la cérémonie des fiançailles à Nazareth, c'était merveilleux, c'était fantastique. Et une nuit, vous avez l'archange Gabriel qui apparaît à la Vierge Marie et qui lui dit « Je vous salue. » Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et elle, elle se dit, mais comment un ange, parce qu'elle connaît sa foi, elle connaît l'histoire de son peuple. Les anges, quand ils apparaissent, ils commandent. Hein. Jamais ils s'inclinent. Hein. Et là, l'archange Gabriel la salue profondément et avec énormément de respect. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me loue comme ça, enfin, pleine de grâce, pleine des grâces du Seigneur, enfin. Et vu son humilité, c'est pour elle, c'est... Et elle lui dit, vous allez être la mère du Messie, vous allez être la mère du descendant de David, du roi d'Israël. Et elle se dit, n'est-ce pas, mais, oui, mais je... J'ai décidé de me donner totalement à Dieu. Donc je ne vais pas m'unir à mon époux. Nous allons vivre dans la chasteté comme je l'ai décidé, comme ça a été décidé. Et voilà la phrase qu'elle sort de ce que je vous dis. Mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Elle est fiancée, hein? Connaître, en hébreu, dans la langue biblique, ça veut dire... je n'aurai pas de relation sexuelle, conjugale, avec mon mari. Et je peux vous assurer qu'à l'époque, tout le monde savait comment faire des enfants. Hein. Elle n'est pas idiote. Hein. Et là, l'archange Gabriel ne se démonte pas et dit « Cela se fera par l'opération du Saint-Esprit, qui vous couvrira de son ombre. Et votre enfant sera le béni et le fils de Dieu. » Il abat toutes ses cartes, il dit c'est pas possible, elle va pas me refuser. Et là, elle dit, et voyez-vous, si vous voulez, quand vous connaissez bien la Bible, que vous l'avez méditée, la Vierge Marie connaît aussi les prophéties d'Isaïe, de Jérémie, elle sait que le Messie va mourir. Elle sait que le Messie va souffrir. Alors que vous avez 99% des juifs qui considèrent qu'il sera immortel, qu'il sera un grand roi, qu'il chassera les Romains, qu'il sera tout puissant et que tout va très bien se passer. La Vierge Marie, elle avait bien lu Isaïe, elle avait bien lu Jérémie. Il sera l'homme de souffrance et il portera les péchés du peuple. Par ses blessures, nous serons purifiés. Il sera comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Donc si vous voulez, quand elle dit oui, c'est pas parce qu'elle est toute contente de devenir la mère du roi. Elle devient la mère du Messie, du Sauveur. Et elle sait que ce Sauveur sauvera d'un grand prix. Et elle dit oui. Et là, l'ange la quitte. Et avant de partir, l'ange lui dit, ta cousine Elisabeth, mes cousines par, par génération issue de Germain, enfin, elle a 14-16 ans, Elisabeth en a 80. Hein, c'est une cousine éloignée. Elle a conçu, elle en est à son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie part immédiatement, va assister à l'accouchement de sa cousine, les trois derniers mois, l'aider, et ça va permettre de cacher sa grossesse. Élisabeth, quand elle voit arriver sa cousine, elle est enceinte du sixième mois, elle dit « Que me vaut d'avoir l'honneur d'avoir la visite de la mère de mon Seigneur ?» Enfin, c'est sa petite cousine. Elle lui dit « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Que me vaut l'honneur d'avoir la mère de mon Seigneur qui vient jusqu'à moi ?» Et là, la Vierge Marie, saisie par Dieu, prophétise et chante le Magnificat. Et dit « Mon âme magnifie le Seigneur, le Dieu d'Abraham a accompli sa promesse et tout se va se réaliser. » Et donc, vous voyez, vous avez deux juives qui proclament que le Messie est arrivé. Et donc, elle reste trois mois, Jean-Baptiste va naître. L'enfant tressaille dans le ventre d'Élisabeth, hein, quand il entend la voix de la Vierge Marie, à travers le sein de sa mère. Trois mois plus tard, elle rentre à Nazareth, et elle a le ventre qui commence à être un peu important, et Joseph est troublé, profondément troublé. Comment elle a pu tomber enceinte? La deuxième partie du mariage n'avait pas pu avoir lieu parce qu'elle était partie voir sa cousine. Et là, le soir même, il est tourmenté et il se dit « Je vais la répudier puisqu'elle m'a trahi. Mais je vais la répudier en secret, elle va partir en voyage, je vais la répudier en secret. » Et alors qu'il est en train de se torturer là, comme ça, vous avez l'archange Gabriel qui lui parle, mais pendant son sommeil, c'est un songe. Il lui dit « Prends la femme et l'enfant. C'est le Messie, c'est le Sauveur. Le Fils de Dieu, le Saint d'Israël qui devait venir. » Donc il se relève le matin, il croit en son songe, ils accomplissent la deuxième partie du mariage, alors que les gens commencent un peu à se poser des questions, on va se dire peut-être qu'ils ont pas respecté la tradition et qu'il a quand même eu commerce avec sa fiancée avant le mariage. Tout est comment dire égalisé. Et au moment où elle est enceinte, au point de concevoir, vous avez l'Empire romain qui déclare le recensement pour faire payer les impôts à tous ces pays soumis. Alors, et du coup, s'accomplit la prophétie, puisqu'au lieu de naître à Nazareth, comme on doit être recensé à l'endroit de son clan, il doit descendre à Bethléem, qui est la ville d'origine de David, car Joseph lui-même est de la famille royale de David, mais bon, avec, si vous voulez, les mains calleuses et les charpentiers.